Oh bah je viens de Tisteron en fait, tout simplement. Je suis vraiment pas loin d'ici, je suis très content d'être là d'ailleurs. C'est une ville que j'aime beaucoup, en particulier pour la citadelle qu'on peut voir d'ici. Accessoirement d'ailleurs, la citadelle c'est un bâtiment que je reprends beaucoup dans mes histoires, parce que j'aime bien la citadelle tout simplement. Bah je pense qu'on peut dire que ça fait quelques années déjà que j'écris, 3 ans même pour être exact, puisque j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Également qu'aujourd'hui je ne suis pas scolarisé parce que j'avais essayé de faire des études de lettres modernes, mais que ça ne m'a pas plu. Ce que je voulais en fait c'était découvrir des ficelles d'écriture, et malheureusement c'était pas tout à fait ça. Donc j'ai arrêté, et puis ensuite j'ai trouvé un service civique pour les potres, une association bio qui a une application concrète en magasin, si on peut dire, au 64 rue Sonnerie, à Sisteron. Également, je travaille pour un journal, le Sisteron Journal. J'écris des articles le week-end, puisqu'en semaine je suis occupé par mon service civique. J'aime beaucoup écrire des nouvelles qui donc je me permets de les spécifier. C'est des histoires en fait qui font, disons, entre 10 lignes et 20 pages. Parce qu'à partir de 20 pages, en fait, une histoire est officiellement considérée comme un roman. Accessoirement, pour qu'une histoire puisse être publiée, il faut qu'il y ait au moins un total de 20 pages. Donc on peut pas publier une seule nouvelle, en format papier bien sûr, mais forcément un recueil. Quand je disais tout à l'heure 10 lignes, c'est parce qu'en fait, 10 lignes, c'est considéré comme une micro-nouvelle. J'ai pu d'ailleurs participer à un concours de micro-nouvelles. D'ailleurs, même encore plus bas que les micro-nouvelles, il y a les sports où c'est 6 lignes. Bon, ça, par contre, j'ai jamais osé en faire parce que déjà qu'une micro-nouvelle, c'était compliqué. Alors, une sport, j'essaie même pas.
Le patrimoine culturel, c'est quelque chose qui vous marque, qui compte énormément dans vos récits.
Oui, tout ce qui a un lien avec la culture, c'est quelque chose qui me marque énormément. Mais dans la vraie vie, si on peut dire. Après, dans mes récits, tout ce qui caractérise mes récits, c'est absolument tout ce qui m'a surpris dans la vie. Que ce soit, par exemple, le patrimoine culturel ou simplement une bonne idée qui soit venue quelque part. Dans tous les cas, ça finit tôt ou tard dans mes histoires.
C'est arrivé comment, ce passage à l'écriture? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti très jeune?
Non, pas du tout. Même pour tout vous dire, j'aimais pas vraiment écrire. Quand j'étais à l'école primaire, j'aimais pas vraiment écrire. En sachant que, en fait, ma mère m'a réexpliqué ça, mais je l'avais presque supplié de m'apprendre à lire pendant les vacances avant le CP. Et du coup, quand je suis arrivé au CP, moi je savais lire. Du coup, moi, lire et écrire, ça m'ennuyait un peu, puisque quand j'étais à l'école et qu'on me demandait donc de lire et écrire, j'avais rien à faire, moi. Je connaissais déjà tout. Donc ça m'a ennuyé pendant très longtemps, jusqu'à peu près au collège en fait, où là j'ai commencé à trouver ça un peu plus sympa, sans pour autant que ce soit vraiment une passion. En seconde, j'ai commencé à trouver ça plus intéressant, et j'ai fini en première littéraire. Littéraire, mais surtout linguistique, puisque j'aime bien l'anglais. Et chaque année, en fait, à chaque fois qu'on faisait une écriture d'invention, mes professeurs me disaient « Oui, tu devrais vraiment écrire pour toi, t'as un style d'écriture intéressant. » Je me disais « Oui, bon, de toute façon, j'aime pas écrire, m'en fous, laissez-moi tranquille. » Et puis à un moment, je suis arrivé en première littéraire, et quand mon professeur de première littéraire me disait que j'avais quand même un style d'écriture qui fallait que j'écrive pour moi, je me suis dit que bon, d'accord, j'allais quand même laisser une chance. Surtout que pareil, hein, au lycée, je m'ennuyais pas mal en cours, donc je profitais en parallèle, j'écrivais des histoires. Et ma toute première histoire, je l'avais écrite en fait pour des amis. Le but du jeu, c'était juste en fait d'écrire une histoire dans laquelle je me citais le plus de mes amis possible.
Pour définir, hein, je sais que c'est jamais très évident pour un auteur, définir l'univers, un tout petit peu cette personnalité qui transparaît dans vos écrits. Qu'est-ce qu'on trouve ?
Alors je vais commencer par le plus évident à mes yeux, à savoir très morbide, parce que dans mes univers, le principe c'est que la mort est omniprésente, et en particulier en fait la mort de mes personnages principaux, parce que dans une histoire, si le personnage principal meurt, c'est la fin de l'histoire. Et donc le principe, c'est un truc que j'aime bien faire dans mes histoires, c'est justement en fait de contrarier cette règle. Par exemple une histoire qui n'est pour l'instant qu'un projet, du coup je profite tant que c'est le moment, j'ai un peu une mentalité antimilitariste moi. Du coup en fait c'est une histoire où on va parler de réfugiés de guerre et de ce qu'ils vivent, et en fait à chaque fois qu'un des personnages meurt, et qui sera tué donc forcément soit par quelqu'un d'autre, soit par une situation, ce sera ce quelqu'un d'autre qui deviendra le nouveau protagoniste. Et donc on va changer de mentalité, de point de vue, comme ça.
J'ai l'impression que l'humour doit faire partie aussi, un humour peut-être un peu cynique aussi, hein, je ne sais pas, il doit faire partie de cet univers.
Oui, l'humour noir, l'humour très sombre. Parce que je ne saurais pas vraiment comment vous définir ça. Disons qu'en fait, moi, donc en histoire fictive, hein, bien évidemment, ça m'amuse beaucoup en fait d'imaginer une exagération dans la mort de mes personnages. Par exemple, ma toute première histoire, celle que je considère comme ma première histoire officielle, celle que j'ai envoyée donc à un concours, c'est une caricature du Necronomicon de Lovecraft que j'ai appelé le Gastronomicon. Donc le principe, c'est qu'en fait, tous les personnages se retrouvent à mourir par des ustensiles de cuisine. Je crois qu'il y en a un qui meurt parce qu'il y a une fourchette plantée dans la gorge. En gros, c'est le principe. Et moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire, cette exagération morbide comme ça.
Vous le disiez, il y a une personnalité qui s'affûte, hein, c'est la vôtre, et qui s'affine. Comment se passent les différents paliers dans lesquels vous évoluez? Il y a des références, vous présentez donc ces écrits. De quelle façon vous êtes en relation avec ces critiques qui vont vous donner peut-être leurs avis?
Alors dans un premier temps, je les garde pour moi, puisque forcément, je vais vouloir les relire après. Après tout, je suis quand même mon premier lecteur, donc c'est vrai que quand j'écris, c'est un premier lieu pour moi. Et ensuite, je les envoie à des proches. Là, ils me disent ce qu'ils en pensent. Et comme pour l'instant, en fait, je peux l'envoyer qu'à des proches, ça s'arrête là. Jusqu'à ce que, donc, comme je le disais au début, j'ai suffisamment de pages d'histoire pour m'en faire un recueil. Et là, je vais l'envoyer à des éditeurs. Et puis, j'aviserai à ce moment-là.
Alors, avec ces éditeurs, quelle est leur relation là, à l'heure actuelle ?
Pour l'instant, il n'y en a pas, puisque j'ai pas pu leur envoyer. Enfin, si, je l'ai envoyé une fois à un éditeur, donc par internet. Et on m'a dit que c'était pas possible parce que j'avais pas 20 pages. Donc, pour l'instant, j'ai pas vraiment de relation avec eux.
Est-ce qu'on peut lancer, par exemple, un appel ? Vous êtes à la recherche d'un éditeur ou autre, une personne qui serait intéressée ?
Alors, ça, oui. Je pense que de toute façon, ça fera pas de mal de commencer dès maintenant. Pour l'instant, c'est que je peux encore le loisir de me renseigner sur les éditeurs.
Raphaël Navarro, il y a aussi une volonté de garder sa personnalité, hein, votre personnalité, de ne pas vous laisser peut-être envahir ou déborder ou être dépendant peut-être.
Complètement. Le principe, c'est que je crée mon univers et j'ai pas envie que quelqu'un vienne m'obliger à changer mon univers en fait. Mon rêve absolu en fait, c'est de pouvoir vivre complètement de mes histoires. Mais si vraiment je devais choisir, je préfère avoir un travail à côté et écrire uniquement les histoires qui me font plaisir que d'avoir à écrire n'importe quoi uniquement pour me nourrir.
Raphaël, le gros projet là à l'heure actuelle, le texte sur lequel vous êtes, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ?
Là, on va suivre un personnage qui sera médecin, mais qui du coup n'aura aucun respect pour la valeur de la vie, si on peut dire. C'est qu'il s'ennuie en fait, tout simplement. Disons qu'il est très intelligent et tout sur la vie ne l'impressionne pas. Les gens, ils devinent plus ou moins leur réaction à l'avance. Un peu plus tard, il va avoir un autre dilemme comme ça, où il y a un enfant qui est blessé, gravement blessé en fait, il s'est pris une balle dans le front, je crois. Donc le médecin est neurochirurgien, et lui seul en fait peut le sauver, parce qu'il est le seul neurochirurgien capable d'extraire la balle. Sauf qu'en parallèle, il y a le maire de la ville qui est également blessé. Son chef, le chef du médecin, lui dit « va soigner le maire », sauf qu'il arrive en second. Et qu'en plus, comme la blessure est moins grave, quelqu'un d'autre peut s'en occuper.
Alors après ce passage dans les cas de conscience, la réflexion, si les personnes sont intéressées, veulent vous contacter, Raphaël, comment est-ce qu'on peut faire ?
Vous pouvez essentiellement me contacter par mail à raphaelnavarro@hotmail.fr. Raphaël, R-A-P-H-A-E-L, N-A-V-A-2-R-O, @hotmail.fr, tout en minuscules, sans espace.